France Culture. Question du soir, Quentin l'a fait.
Un nouvel ouvrage ou un point final, André Comte-Sponville vient de faire paraître ses ultimes lignes intitulées « L'opportunité de vivre, ultimes études aux presses universitaires de France ». Un ouvrage qui renferme un triptyque entamé en 1994 avec « Valeur et vérité », puis en 2015 « Du tragique au matérialisme ». Ces études finales constituent pour le philosophe l'occasion de convoquer ses maîtres à penser, notamment Épicure, Montaigne, Spinoza, en vue de répondre aux questionnements qui façonnent notre existence. Comment atteindre la sagesse dans une vie en mouvement? Comment définir le bonheur? Peut-on décider de mourir lorsque l'on considère que notre vie n'en vaut plus la peine? Et pourquoi la spiritualité fait-elle partie de la condition humaine? Et bien, pour tenter de répondre à toutes ces questions, peut-être quelques-unes d'entre elles seulement, André Comte-Sponville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous avez fait paraître une trentaine d'ouvrages. Merci beaucoup d'être ce soir dans Question du soir.
Après une année 2023 déjà record, 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. La température moyenne sur Terre était supérieure de 1,6 degré à celle de l'ère pré-industrielle. Plus la planète se réchauffe, plus l'intensité des précipitations et des événements météorologiques extrêmes augmente.
La Russie a une nouvelle fois mené une attaque massive sur l'Ukraine. Plus de 40 missiles et plus de 70 drones ont été tirés. Et comme à chaque fois en plein hiver, c'est le secteur énergétique ukrainien qui a été visé.
Il y a un pessimisme français qui est réel. On est dans un pays où on se socialise d'abord par la critique, beaucoup plus que par une communion positive. Les JO, c'était vraiment une parenthèse enchantée, mais une parenthèse. Il y a un pessimisme français qui est réel. Il y a un doute très profond.
Et face à l'actualité, André Comte-Sponville, on se dit qu'il y a peut-être deux tempéraments possibles, le pessimisme d'un côté, l'optimisme de l'autre. Est-ce que ce couple-là, ces deux notions, ont pour vous une quelconque valeur philosophique ?
Faible. Faible parce que c'est une question de tempérament plutôt que de pensée. Je crois que l'essentiel a été dit en une phrase par Gramsci, le communiste italien, dans les geôles de Mussolini, qui disait « pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Et je crois que c'est vrai, pessimisme de l'intelligence, parce que mieux vaut voir les choses comme elles sont, faire preuve de lucidité, et à tout prendre, mieux vaut les noircir un peu que les enjoliver, comme ça on sera plus vigilant, plus méfiant. Pensez par exemple au dérèglement climatique, mieux vaut assombrir le tableau que l'enjoliver, sinon on tombe dans le climato-scepticisme. Mais optimisme de la volonté. Parce que si on veut pouvoir changer les choses, encore faut-il penser que c'est possible. Et voilà, je crois que c'est ce vers quoi il faut tendre. Par ailleurs, chacun a son tempérament, puis ça dépend des domaines, si vous voyez. Non, je crois que pessimisme, optimisme, c'est un peu des catégories psychologiques plutôt que philosophiques. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est un concept philosophique, c'est le tragique. Voilà. La prise en compte de la dureté de la vie, de l'échec, de la finitude, de la mort. Ça fait partie de la condition humaine. C'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. Et cet esprit tragique, j'en ai découvert un résumé qui me réjouit en quelque chose. C'est une formule d'Alphonse Allais, cet humoriste du tout début du XXe siècle, un peu oublié aujourd'hui, qui écrit quelque part « Ne nous prenons pas au sérieux ». Il n'y aura aucun survivant.
Et vous prenez au sérieux, André Comte-Sponville ?
Ça vous annule. Et quand je cite cette phrase dans mes conférences, depuis que j'ai découvert cette phrase, je la cite très souvent, à chaque fois, le public s'amuse. Ça, c'est le tragique. Et c'est même ce que Clément Rosset appellerait la joie tragique. Parce que, objectivement, c'est une mauvaise nouvelle, on va tous crever. Oui, mais voir la vérité en face, y compris quand elle est sombre, ça donne envie de vivre, alors que des tas de leçons d'optimisme donnent envie de se coucher.
Mais c'est là-dessus justement que je voulais vous interroger. Si le pessimisme, si l'optimisme éloignent tous les deux de la vérité, quel que soit le chemin qu'on choisit entre les deux, d'ailleurs, comment se rapprocher de la vérité? C'est en philosophe que vous vous adressez à nous dans ce dernier ouvrage, L'opportunité de vivre. Est-ce à dire qu'il faut miser d'abord et avant tout sur la lucidité?
Je crois que la lucidité est la première vertu intellectuelle, bien sûr. Autrement dit, il ne s'agit pas de penser pour se faire plaisir, de penser pour se rassurer ou pour se consoler. Il s'agit de penser ce qui paraît vrai. Voilà. Et c'est ça la philosophie. La première exigence, c'est l'amour de la vérité. Alors, vérité au moins possible. On n'est jamais certain de la connaître. On ne la connaît bien sûr jamais tout entière, mais penser ce qu'on croit être vrai, oui, c'est le béaba de l'éthique intellectuelle, pas seulement en philosophie, mais notamment en philosophie.
Que faire alors du désir très partagé ces temps-ci de se détourner du réel, hein. Je pense au refus de l'engagement, à l'éloignement de l'actualité, au renfermement aussi sur la sphère privée. C'est un défaut, vouloir s'éloigner du réel ?
Surtout, c'est un rêve. Je vous mets au défi de vous éloigner du réel. Vous êtes dedans. Vous pouvez vous éloigner de votre fauteuil. Ça, c'est possible.
Il y a des gens qui coupent la radio parce qu'ils refusent d'écouter
la réalité. Oui, mais le réel n'en est pas moins présent. Autrement dit, sortir du réel, par définition, c'est impossible. Alors, on peut penser au réel ou se raconter des histoires, vivre dans l'illusion. Et à nous, évidemment, le choix du philosophe, c'est celui du réalisme, de prendre acte de ce qui est pour essayer de le transformer.
On a trouvé un philosophe qui faisait parfaitement le lien entre l'analyse de l'actualité que vous êtes en train de nous faire avec distance et l'ouvrage que vous venez de faire paraître. Il s'appelle Albert Camus.
Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites ? Eh oui, que faire des lépreux ? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco ? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement.
Albert Camus au Théâtre Antoine, c'était le 12 mai 1959. Alors André Comte-Sponville, est-ce qu'on peut être heureux aujourd'hui malgré le Cachemire, c'est-à-dire malgré l'Ukraine, malgré Gaza, malgré le réchauffement climatique ? Est-ce qu'on a le droit à ce bonheur-là malgré tout ça ?
Tout dépend ce qu'on entend par bonheur. Si vous entendez par bonheur, comme y invitent les dictionnaires, un état de complète satisfaction, alors évidemment, on ne peut pas. On ne peut pas être complètement satisfait face à l'Ukraine, à Gaza ou au dérèglement climatique. Alors la complète satisfaction, c'est ce que j'appelle la plénitude, la satisfaction de tous nos désirs. Un, c'est impossible, puisque nos désirs sont ouverts à l'infini et que nous sommes voués à la finitude. Deux, en effet, ça serait moralement inacceptable. Donc le bonheur, ça n'est pas la plénitude, ça n'est pas la satisfaction de tous nos désirs. Ça n'est pas non plus une joie constante, permanente, immuable. Ça, c'est ce que j'appelle la félicité. Ça n'existe pas non plus. Et qui pourrait être pleinement joyeux devant ce qui se passe, là encore, à Gaza ou en Ukraine. Alors si le bonheur n'est ni la plénitude, ni la félicité, qu'est-ce que c'est ? Alors, ma définition, qui va vous paraître bien triviale, voire décevante, mais que je crois en vérité très éclairante, est la suivante. Le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur.
Quand je l'ai lu, effectivement, elle m'a un peu surprise.
Vous allez me dire, on n'est pas très avancé. En vérité, on est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, personne ne sait ce que c'est. C'est ce qu'écrivait Kant. Le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, personne ne sait exactement ce que c'est. Alors que le malheur, on sait ce que c'est. Du moins, ceux qui l'ont vécu le savent, parce que le malheur, c'est pas un idéal de l'imagination. C'est même pas un idéal du tout. C'est une expérience. On l'a vécu ou pas. Il se trouve que moi, il m'est arrivé, comme des millions de gens, d'être malheureux. Et je peux donc m'appuyer sur l'expérience vraie du malheur pour savoir ce qu'il est. Et si, par hypothèse, le bonheur, c'est le contraire, si je sais ce qu'est le malheur, je saurai ce qu'est le bonheur. Alors, mon expérience vraie du malheur m'amène à en proposer la définition suivante. J'appelle malheur tout laps de temps où toute joie vous paraît immédiatement impossible.
Si je vous suis, André Comte-Sponville, quand les gens disent qu'ils sont heureux, cela signifie qu'ils disent simplement qu'ils ne sont pas malheureux. Mais si on vous suit dans la définition, il pourrait y avoir un troisième état, il pourrait y avoir un état d'indifférence quant au bonheur et au malheur. Pourquoi le malheur, l'absence de malheur, plutôt est-il
Parce
forcément
si
pour
le malheur,
vous, synonyme de bonheur ?
Tout laps de temps où toute joie paraît impossible, j'appelle bonheur tout laps de temps où la joie paraît possible. Vous vous réveillez le matin, vous écoutez la radio, il y a des horreurs à Gaza, en Ukraine. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucune joie pour vous dans la journée ? Bien sûr que non. Autrement dit, si vous attendez pour être joyeux, possiblement joyeux, que tout aille bien dans le monde, vous ne serez jamais joyeux. Et donc, une fois qu'on a compris qu'en effet, l'expérience vraie du malheur est plus importante que les rêves de bonheur, tant qu'on rêve le bonheur, en vérité, c'est qu'on n'est pas heureux. Vous savez ce que disait Jules Renard dans son merveilleux journal ? Je suis un homme heureux, car j'ai renoncé au bonheur. Il a renoncé à ce que j'appelle moi la félicité, à ce que j'appelle moi la plénitude. Mais ça ne veut pas dire qu'il est malheureux. Et donc, en effet, je crois que plutôt que d'être malheureux de n'être pas heureux, soyons plutôt heureux de n'être pas malheureux. Le simple fait que la joie soit possible, pas toujours réelle, mais immédiatement et continuellement possible, c'est ça que j'appelle le bonheur. Et effectivement, l'Ukraine, Gaza, n'empêche pas que la joie soit malgré tout possible. Et j'ai envie de dire fort heureusement, parce que sinon, nous serions tous voués au malheur et ça n'est pas non plus notre expérience. Et puis, un mot sur Camus, parce que lui, c'est un penseur tragique. Et quand il écrit le mythe de Sisyphe, c'est l'homme face à l'absurde, face à ce qu'il y a de tragique dans la condition humaine, mais vous connaissez la formule dans le mythe de Sisyphe, la seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est celle du suicide. Alors moi, je ne dirais pas
vous
la
n'y croyez
seule,
pas à ça, vous.
Mais c'est l'une des questions importantes, et c'est pourquoi le premier texte de ce recueil, le premier texte s'appelle « L'opportunité de mourir », c'est un travail sur le suicide chez les stoïciens et chez les épicuriens. Et ce que j'essaye de montrer, m'appuyant sur ces deux grandes écoles de l'Antiquité, et pour éclairer le débat actuel sur la fin de vie, c'est que continuer à vivre ou au contraire décider d'en finir, ça n'est pas une question de principe, c'est une question d'opportunité. Autrement dit, personne n'est pour la mort, tout le monde préfère la vie évidemment, mais si dans certaines circonstances la vie devient tellement douloureuse, si on est tellement handicapé qu'on préfère en finir, on a le droit d'en finir.
On va revenir sur la fin de vie, André Comte-Sponville, parce que c'est une réflexion absolument centrale dans ce livre et d'ailleurs dans l'ensemble de votre œuvre. Mais je voulais d'abord vous faire commenter une autre citation inscrite là aussi dans votre dernier ouvrage, et de Pascal, celle-ci, qui dit « Tous les hommes recherchent d'être heureux jusqu'à ceux qui vont se pendre ». Alors comment interpréter celle-ci ?
Ben pourquoi est-ce qu'on se pend pour ne plus souffrir ? Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Autrement dit, voilà, tout ce qu'on fait, c'est pour être un peu plus heureux ou un peu moins malheureux. Et Pascal a raison, ça vaut aussi des suicidaires. Mais ça vaut aussi pour chacun d'entre nous qui, fort heureusement, sauf exception, ne sommes pas suicidaires.
Justement, je voulais vous poser cette question avant d'entrer de plein pied dans le sujet de la fin de vie. Est-ce que vous pourriez un jour, vous-même, vous suicider, si je vous pose la question? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, elle est philosophiquement envisageable, cette question, pour vous-même?
Absolument. Moi, je suis convaincu, et je le montre là encore dans ce premier article sur le suicide chez les stoïciens et les épicuriens, je suis convaincu que le suicide fait partie des droits de l'homme. On a le droit de mourir volontairement. Si je suis maître de ma vie, je dois pouvoir l'être dans certaines circonstances de ma mort. Et je dirais philosophiquement, la question est assez simple. Je ne connais aucun philosophe non religieux qui pense autrement que ça. Et c'est pourquoi il est intéressant de revenir aux anciens, qui étaient antérieurs évidemment aux différents monothéismes, parce qu'on voit que lorsqu'on raisonne de façon laïque et rationnelle, il n'y a aucune raison de faire du suicide un crime. D'ailleurs, notre législation ne fait pas du suicide un crime, ni même un délit. Si vous faites une tentative de suicide et vous vous ratez, vous ne courez aucun risque judiciaire. La justice n'a rien à vous reprocher. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que dès lors que le suicide n'est pas un délit, pourquoi l'assistance au suicide en est-elle un ? Pourquoi mon médecin n'a-t-il pas le droit de m'aider à mourir si je le lui demande ? Pour de très bonnes raisons, pas parce que j'ai un chagrin d'amour, mais parce que je suis tragiquement handicapé, parce que je commence une maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques, que sais-je, voilà. Autrement dit, il ne s'agit pas de choisir la mort, il s'agit d'aimer la vie, évidemment, mais d'aimer aussi la liberté. Et si on aime et la vie et la liberté, on souhaite que la vie puisse être libre jusqu'au bout. Ça n'oblige pas à se suicider, mais on doit faire en sorte que le suicide soit légalement possible afin qu'on puisse mourir dans de bonnes conditions.
Alors je reviens justement, André Comte-Sponville, aux anciens. C'est ainsi que vous entamez votre ouvrage, notamment votre premier article. Vous prenez deux écoles de pensée que l'on imagine extrêmement différentes, extrêmement divergentes, le jardin et le portique, c'est-à-dire les épicuriens et les stoïciens, que tout oppose a priori, sauf peut-être sur la question de la fin de vie et du suicide. Expliquez-nous pourquoi.
Mais c'est ça, c'est vrai que c'est les deux écoles absolument opposées. D'un côté, les épicuriens, philosophes du plaisir et de l'atomisme, et d'un autre côté, les stoïciens, philosophes de la vertu et du plein. Pour les épicuriens, du vide dans l'univers, entre les atomes, pour les stoïciens, l'univers est absolument plein. Donc ils s'opposent en tout, sauf en effet sur le suicide. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est moins une question philosophique, ou plutôt philosophiquement, la question est très simple. Si on aime la liberté, il n'y a aucune raison d'interdire le suicide. Et les stoïciens comme les épicuriens aimaient tous les deux la liberté. Et c'est pour ça qu'il est éclairant qu'ils soient d'accord sur ce point. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de contre-exemple. Le seul ancien qui ait manifesté des réticences contre le suicide, c'est Platon. Mais lui-même reconnaît qu'il y a des exceptions et qu'en cas de très grave maladie, de très grande souffrance, on doit avoir le droit de se suicider. Autrement dit, l'interdit porté sur le suicide doit tout au monothéisme, dans nos pays, et essentiellement au christianisme, mais c'est vrai aussi du judaïsme et de l'islam.
Il y a une expression sur laquelle j'ai achoppé tout à l'heure en vous écoutant, vous avez dit « c'est peut-être pas une bonne raison pour se suicider ». Ça veut dire qu'il y a quand même des bonnes raisons établies, selon vous, clairement établies, pour qu'on l'on puisse ou que l'on accepte du moins de se suicider ou qu'on se lance vers le suicide ?
Il faudra que la loi prévoie en effet un certain nombre de critères. On ne peut pas imaginer un adolescent de 17 ans qui a son premier chagrin d'amour, qui veut mourir, qui va voir son médecin en lui demandant de l'aider à mourir. Il va de soi qu'aucun médecin ne l'acceptera ça. Et donc on sera obligé de concevoir quels sont les cas qui peuvent autoriser un médecin à aider son patient à mourir. Et d'abord, évidemment, des maladies graves et incurables, mais pas forcément en phase terminale. Parce que moi, il y a un cas qui m'importe spécialement, c'est la maladie d'Alzheimer. Mon père est mort d'Alzheimer, ma belle-mère aussi, c'est une maladie que je connais bien. Dans les projets actuels de loi autorisant le suicide assisté, on prévoit que ça soit uniquement dans le cas de malades en phase terminale et disposant de leur raison intacte. Mais si je commente une maladie d'Alzheimer, je ne suis pas en phase terminale. J'ai devant moi 5-6 ans d'espérance de vie. Et si on attend les 5-6 ans, je ne serai plus maître de ma pensée puisque je serai devenu débile. Et donc, si on réserve l'euthanasie aux seuls malades en phase terminale, ça veut dire qu'on exclut du droit à l'euthanasie tous les malades Alzheimer. Or, il y en a 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer, rien qu'en France, chaque année, 225 000 nouveaux cas. On ne peut pas envisager une loi sur la fin de vie qui exclurait de ce droit-là 225 000 personnes par an, si vous voulez. Et donc, il faudra des critères. On ne peut pas se suicider pour n'importe quoi. Ou en tout cas, on peut peut-être le faire soi-même pour n'importe quoi, mais on ne peut pas demander l'aide de son médecin pour n'importe quelle raison. Il faudra que la loi précise quels sont les cas valables. Mais de grâce, ne réservons pas ça aux malades en phase terminale.
Un paradoxe apparent qui m'a troublé dans cet ouvrage qui vient de paraître auprès d'une universitaire de France et intitulé « L'opportunité de vivre, ultimes études ». Vous dites d'un côté, je paraphrase, que nous avons tous la liberté de mettre un terme à notre vie, en tout cas que le suicide peut être une liberté. Et dans le même temps, vous laissez entendre que les sages, les personnes qui ont atteint l'état de sagesse, la sagesse philosophique, ceux-là sont plus à même que les autres de se suicider. Comment est-ce que vous pouvez résoudre ce paradoxe?
C'est le grand paradoxe entre les stoïciens et les épicuriens. Donc, au-delà de leur accord général sur le suicide, la différence, c'est que pour les stoïciens, le seul qui puisse vraiment se suicider dans les meilleures conditions, c'est le sage, parce qu'il va se suicider en étant parfaitement heureux, puisque c'est le propre de la sagesse. Alors, c'est un paradoxe, évidemment, d'imaginer que le seul qui va se suicider dignement, ça soit celui qui est tellement heureux qu'au fond, il n'a plus de raison de se suicider. Alors que les épicuriens, au contraire, peut-être plus cohérents là-dessus, pensaient que le sage, justement parce qu'il est pleinement heureux, lui n'a pas de raison de se suicider. Et que donc le suicide pour les épicuriens vaut plutôt pour ceux qui ne sont pas des sages. J'avoue que de ce point de vue, je me sens, mais comme d'habitude, plus proche d'Épicure que des stoïciens.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Mgr Mathieu Rougier. Il s'exprimait le 11 mars 2024 sur l'antenne de nos confrères de France Inter.
La question de l'interdit de la mort est structurante pour notre société. Si nous pouvons vivre en société, c'est parce que nous faisons collectivement le choix de respecter la vie de chacun de nos semblables. Quand le pronostic vital est engagé, la mort n'est pas déjà là. Et beaucoup de nos auditeurs savent, quand on accompagne une personne en fin de vie, il se passe des choses décisives dans le dialogue mutuel, dans les derniers moments, dans les dernières heures. Et on ne peut pas parler de fraternité quand on répond à la souffrance par la mort.
Qu'est-ce que vous pensez, André Comte-Sponville, de ce lien qui est tissé entre deux concepts, la fin de vie d'abord, la fraternité ensuite?
Ils ont dit la même chose sur l'IVG. C'est exactement les mêmes qui se sont battus contre la loi Veil, qui aujourd'hui se battent contre la légalisation de l'euthanasie. Ils ont parfaitement le droit d'être contre. Et pour des raisons
C'est peut-être plus transpartisan sur la question de la fin de vie tout de même que sur l'interruption volontaire de grossesse.
Pardon ?
C'est peut-être plus transpartisan la question des doutes quant à légaliser la fin de vie et le suicide assisté que sur l'interruption volontaire de grossesse.
Dans ce cas, c'était parfaitement transpartisan. Je pense d'ailleurs que l'avortement est une question moralement bien plus difficile que la fin de vie, que l'euthanasie, parce qu'il ne s'agit pas de soi-même, il s'agit d'un embryon. Et donc, je suis absolument pour la loi Veil, hein, et ça va de soi, mais là, c'était un problème moral difficile. Dans le cas de l'euthanasie et du suicide assisté, je crois qu'au contraire, le problème est bien plus léger. Mais bon, l'Église a le droit d'être contre, comme elle était contre l'IVG. Un État laïque, républicain, n'a pas à tenir compte d'interdits religieux.
Comme on n'est pas un paradoxe près dans cette discussion, mais paradoxe que vous levez les uns après les autres, je voudrais vous faire commenter cette phrase qui vous concerne cette fois, André Comte-Sponville. Vous dites « Plus j'aime la vie, moins j'ai besoin d'écrire, et cela me paraît plutôt une bonne chose ». Fin de citation. Il faut nous expliquer là aussi de quoi il s'agit.
Alors, d'où ce sous-titre d'ultimes études. Alors, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que c'est mon dernier livre. Sincèrement, je n'en sais rien. Mais c'est mon dernier recueil d'études. Alors, ce que j'appelle des études, des articles, le plus souvent d'histoire de la philosophie, donc où je parle de la philosophie des autres, avec des articles de philosophie savante, avec beaucoup de références, beaucoup de notes en bas de page. Et c'est vrai que ça, j'ai décidé d'arrêter, parce que je trouve que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait 3 volumes d'études, plus de 1300 pages, je crois, les 3 volumes réunis. Et donc, si j'écris encore, ce qui est possible, je préfère écrire des textes plus personnels, plus proches de moi-même, et non pas des textes d'histoire de la philosophie. Mais il se peut que ça soit mon dernier livre. Et c'est pas triste. Pourquoi ? Mais parce que je crois avoir dit, en effet, ce que j'avais à dire. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Imaginez que j'arrive, j'ai 72 ans, que je vous dis, écoutez, j'ai 72 ans, j'ai pas encore réussi à dire ce que je voulais dire. J'ai pas encore réussi à exprimer ce que j'avais à dire. Là, ça serait un échec. Mais c'est tout le contraire. J'ai 72 ans, j'ai publié une trentaine de livres qui valent ce qu'ils valent. Moi, je pense que ce sont de bons livres. Mais en tout cas, j'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que je n'écrirai plus. Je n'écrirai plus d'études. Peut-être j'écrirai d'autres livres. Mais pour l'instant, je n'ai aucun livre en cours ni en projet. Et c'est la première fois que ça m'arrive depuis 50 ans. Et j'en suis tout à fait satisfait.
Mais quand même, c'est la construction de la phrase que je voudrais interroger avec vous. Plus j'aime la vie, moins j'ai besoin d'écrire. Vous semblez opposer la vie et l'écriture.
Oui, parce qu'on a besoin d'écrire parce que la vie ne suffit pas. En tout cas, c'était mon expérience à moi. C'est-à-dire que moi qui suis de tempérament plutôt mélancolique, plutôt anxieux, quand je passais une journée sans écrire, très vite, j'avais une espèce de, d'angoisse, le sentiment de la vanité de tout. Une journée sans écrire, pour moi, c'était une journée perdue. Comme si la vie ne me suffisait pas. Et depuis, ça fait au moins 30 ou 40 ans que je dis à tous mes amis que je souhaite être capable de ne plus écrire, parce que je souhaite que la vie me suffise. Et est-ce que c'est le bénéfice de l'âge ? Est-ce que je suis un peu plus sage que dans ma jeunesse ? Je ne sais pas. En tout cas, les bons jours, la vie me suffit. Et donc, les bons jours, je ne ressens plus ce besoin d'écrire. Je vous accorde que les mauvais jours, l'angoisse revient assez vite, le sentiment de la vanité de tout, le côté l'ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. J'en suis pas tout à fait préservé, mais je travaille sur moi, comme on dit, je progresse. Voilà. Donc pour l'instant, les bons jours, la vie me suffit, je n'ai plus besoin d'écrire. Les mauvais jours, je ressens encore ce besoin. D'ailleurs, il m'arrive encore d'écrire, pour tout vous dire. Je ne sais pas si
je suis secret,
ce que j'écris, mais voilà. Donc, pour résumer, ça n'est pas forcément mon dernier livre, je n'en sais rien, c'est mon dernier recueil d'études, mais je suis très content, un, d'avoir réussi à dire ce que je crois j'avais à dire, et deux, je suis content de voir que, le plus souvent, la vie me suffit parce que, voilà, le bonheur de vivre, le bonheur, pas la joie permanente, pas la satisfaction de tous mes désirs, je ne suis pas fou. Non, non, mais le fait que la joie soit possible, tantôt elle est là, tantôt elle n'est pas là, mais je trouve ça formidable.
Qu'est-ce que ça signifie, cette expression, ce sous-titre que vous avez choisi, l'opportunité de vivre ?
Alors, donc le premier article dans ce recueil, c'est un recueil d'articles, c'était « L'opportunité de mourir ». Et pour tout vous dire, le premier titre pour le recueil qui m'est venu, c'était « L'opportunité de mourir et autres études ». Voire et autres ultimes études. Alors là, ça faisait quasiment un avis de décès, si vous voulez. Donc, mon épouse
c'est pas
m'a
très,
dit
très
c'est vraiment trop triste, je ne peux pas l'appeler comme ça. Et donc, je l'ai appelé « L'opportunité de vivre », sous-titré « Ultimes études ». Et quand j'ai dit ça à mon éditrice, elle m'a dit « J'adore votre femme ». Parce qu'en effet, le titre est quand même plus vendeur, si l'on peut dire, que « L'opportunité de mourir ». Mais en vérité, et c'est ce que j'explique dans l'avant-propos, les deux sont indissociables. Une fois qu'on a compris que décider d'en finir, ou au contraire, décider de continuer à vivre, c'est une question non pas de principe une question d'opportunité. On comprend que l'opportunité de vivre et l'opportunité de mourir, c'est la même chose. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Et pour l'instant, évidemment, je préfère de très loin l'opportunité de vivre.
Merci beaucoup André Comte-Sponville pour ces leçons, pour ces confidences aussi. Merci beaucoup à votre femme aussi qui vous a rendu plus vendeur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'opportunité de vivre, ultimes études, qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Merci à vous.